Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et bienvenue sur Super Laser Punch, et aujourd'hui c'est une version anglaise du nom de l'émission Super Laser Punch, parce qu'on parle de trucs anglais avec des gardiens, des galaxies, de la guerre, des armes, et puis un petit peu d'émotion aussi quand même, puisqu'on va parler de Guardians of the Galaxy Volume 3, le troisième et dernier volet de cette trilogie de James Gunn, de Marvel, du MCU, qui marque peut-être un tournant dans cette série et dans le MCU en général. On va en parler tout de suite, je suis Patrick Béja et j'ai le grand plaisir d'accueillir avec moi, et vraiment pour le coup, alors, on va en parler dans un instant, mais Johan, merci d'être là avec moi pour parler de Guardians of the Galaxy Volume 3. Comment ça va?
ça va bien.
Énergie, t'as vu l'énergie que j'ai mis là? Vas-y,
ouais,
ça va.
Alors là, t'as la patate, ça fait du bien. Ça,
bah oui.
Ça rayonne sur moi, écoute. moi, de mon côté, là, on est en alerte pollen.
Ah merde.
Je suis tout sautant et tout ça, mais je suis là, hein, je suis avec toi. Et j'ai hâte de parler de Guardian of the Galaxy Volume 3.
Très bien. Tu sais quoi? Je suis un peu... Tous autant aussi, Johan, je pleurnichant même, parce que ça fait tellement longtemps que j'attends de pouvoir parler d'un film Marvel qui est juste bien, qu'on n'a pas besoin de trouver « Oh, là, il y avait une scène marrante, là, il y avait une réplique qui n'était pas con !» Un film bien que j'ai aimé, Guardians of the Galaxy Volume 3, c'est super bien. Et si tu n'es pas d'accord? Je pense que ça peut créer un schisme dans cette émission. Oh non ! Oh non, on me dit pas ça.
Alors.
Dis-moi, ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Est-ce que c'est bien ou pas pour toi ? Alors,
je pense que c'est le meilleur film du MCU depuis beaucoup trop longtemps.
Non, mais ça, c'est pas vraiment un truc, tu vois, c'est...
Mais je pense que voilà, c'est pour moi, c'est une confirmation que je suis pas super sensible en fait à ce que fait Gunn, quoi. Donc on pourra en parler en détail, mais je vais quand même dire que j'ai quand même globalement bien aimé, mais il y a plein de choses qui m'ont un peu agacé, un petit peu chiffonné, un petit peu fait rouler les yeux. Mais bon, je pense que bon, ça c'est juste.
Disons que t'as pas trouvé ça mauvais. Donc
absolument pas. Je dis que c'est le meilleur film. Quand je dis que c'est le meilleur film du MCU depuis longtemps, je remonte vraiment
Genre
à Endgame, et c'est meilleur que des trucs avant Endgame, quoi.
Très bien. Ouais. Ok, bon, ça va. J'allais dire, il va falloir qu'on aille, tu sais, au conseiller conjugal, tout ça, mais bon, peut-être qu'une petite discussion et puis quelques efforts, tu vois, des fleurs de temps en temps, un petit peu d'aide avec le ménage, conjointement, tout ça, peut-être que ça suffira, tu vois.
Ouais. Mais quelque part, il y a, on va dire que c'est une bonne nouvelle que le film soit bien, mais il y a une mauvaise nouvelle cachée derrière, c'est que la dernière personne au MCU qui est capable de faire des films juste bien, bah, il s'en va.
Peut-être, effectivement, un tournant. Donc, très rapidement, hein, une petite partie sans spoiler, évidemment, au début, qui va être assez courte, parce que je pense que peu de gens n'ont pas vu le film s'ils écoutent cet épisode, mais... en gros, Guardians of the Galaxy Volume 3, comme tu le mentionnais, c'est le dernier film de James Gunn pour le MCU. C'est aussi le dernier film de la trilogie des Gardiens de la Galaxie qu'il a dirigé plus ou moins seul depuis le début. Et c'est une série qui est importante, évidemment, pour le MCU, puisque c'est la série qui a amené l'aspect galactique, cosmique du MCU, et surtout qui a légitimisé le fait qu'on peut avoir des personnages étranges, bizarres, vraiment de comiques, genre un arbre et un raton laveur. Et bah, c'est des personnages qu'on va aimer, qu'on va croire surtout, et qui vont fonctionner dans un univers qui était jusque-là relativement réaliste. Donc, c'est une œuvre qui est essentielle pour cet univers cinématographique. Et au-delà de la trilogie, ben, le film lui-même a été un petit peu compliqué à gérer, à créer, puisqu'il y a eu les controverses avec James Gunn, qui a été renvoyé, puis réengagé, puis entre-temps, il est parti chez DC, et maintenant... Il est à la tête de la cohérence du DCEU pour les années à venir. Donc, effectivement, c'est un travail qui est à regarder avec ce spectre, peut-être aussi pour ce que ça veut dire pour l'avenir à la fois du MCU et de DC. Et encore une fois, sans spoiler, moi, je n'avais pas regardé de trailer comme toujours, et je vous recommande de le faire, d'aller voir le film sans trailer si vous ne l'avez pas encore vu. Mais... c'est, on va dire, et lui-même l'a déclaré, c'est un petit peu la fin de cette forme des Gardiens de la Galaxie. Et le film se concentre sur des personnages qui n'ont pas forcément été... dont on n'a pas... pour lesquels on n'a pas toutes les informations jusqu'ici. Donc, ça laisse... on sait dans le marketing de qui il s'agit, mais je ne vais pas en parler plus que ça. Et il y a bien sûr donc un nouveau méchant, et puis la suite des histoires des gardiens, etc. etc. Donc, je fais vraiment minimum pour l'histoire, pour ne rien spoiler du tout si vous n'avez pas vu. Et donc, sans spoiler, moi j'ai déjà dit que j'ai beaucoup aimé. Est-ce que tu veux développer ton argumentaire au-delà de ça avant la partie spoiler ?
Ouais. Dis-moi. Ouais, rapidement. Donc, du coup, tu mentionnais qu'effectivement, c'était Gunn qui a fait tous les épisodes de cette série-là dans le MCU. Même, ça s'est même allé plus loin parce que, du coup, il était consultant systématiquement sur les films, enfin, consultant les producteurs, sur les films où les gardiens intervenaient pour s'assurer justement que ces personnages-là soient traités voilà, comme il le souhaitait.
Avec respect et cohérence, donc, oui.
Voilà. Donc, du coup, effectivement, ces personnages-là, on sent complètement que James Gunn les adore. Et en fait, et c'est là où moi j'ai mon bémol à moi, c'est que moi j'aime pas la façon dont lui les adore, en fait, ces personnages. Et en fait, moi, ces personnages-là, globalement, je les aime pas trop. Depuis le début, globalement, je les aime pas trop.
Il y a quelques personnages que j'aime. Ouais. Toi, est-ce que tu as pas aimé les deux premiers? Ou tu as aimé ou quoi?
Alors, le premier, à l'époque, hein, au cinéma, j'avais trouvé ça complètement incroyable. Mmh. Et en fait, je pense que l'uniformisation du MCU et même parfois du cinéma de divertissement autour de cette façon de faire, en fait, m'a rendu assez insensible, en fait, à cet exercice-là.
C'est vrai qu'à partir des premiers gardiens, tout le MCU s'est transformé en Gardien de la Galaxie avec les blagues permanentes, l'humour tout le temps, beaucoup plus qu'avant.
C'est ça. Et un truc un peu particulier avec Gunn, il n'est pas le seul là-dessus, où je trouve qu'ils ont tendance à beaucoup crier. C'est-à-dire que les personnages crient beaucoup et la blague, c'est qu'ils crient.
Tout le temps. Ouais.
J'ai un exemple très précis pour, pour plus tard dans l'émission, mais du coup, c'est assez cacophonique. Et voilà, puis c'est des personnages auxquels je ne m'attache pas du tout. Alors, je peux citer un, ceux que j'aime bien. Donc, moi, mine de rien, Peter Quinn, bon, bah, il y a des moments où il. Quill, pardon, j'ai dit Queen encore, comme... D'accord, ok. Il y a des moments où il sort vraiment du lot, et puis il y a voilà, ce raccoon moi, que j'adore depuis le premier, et même dans le deuxième et dans le troisième, voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Mais pour le reste, moi, ça marche pas. J'aime pas les autres personnages, et j'aime pas comment ils sont traités. Même si dans celui-là, justement, il revient, et c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que voilà, tu vois que Gunn sait ce qu'il fait et qu'il a un recul sur ses personnages et sur comment il les traite et c'est intégré au propos du film, etc. Donc voilà, ce qui m'impressionne dans ce film-là, c'est que tu sens du début à la fin, que ce soit dans la façon de filmer et aussi dans la façon de développer les personnages, qu'il y a un auteur derrière qui sait ce qu'il fait, même si on peut ne pas aimer ou pas être sensible à ce qu'il fait, mais il sait ce qu'il fait et il utilise ça même dans le propos du film pour faire passer des choses, etc. Donc voilà. Donc voilà où moi j'en suis.
D'accord. Donc en demi-teinte plus que plus
ouais,
que...
Voilà,
alors,
voilà.
Moi, clairement, disons que sur l'analyse froide, je suis d'accord avec toi, c'est le meilleur Marvel de loin depuis, bon, on va dire depuis Endgame, et clairement, il est meilleur que beaucoup de choses qui sont faites avant Endgame. Pour moi, c'est vraiment un film de la phase 3, en fait, et avec tout ce qu'elle peut avoir d'excellent. Et on est tellement loin de la phase 4. Déjà, alors, c'est marrant parce qu'il introduit des personnages différents de ceux qu'on connaît, pas beaucoup, mais il y en a. Et, mais ils sont... Alors que c'est un truc qu'on reproche dans tous les autres films parce qu'ils sortent de nulle part, là, en fait, bon, ils sortent pas complètement de nulle part. Et puis surtout, ils sont cohérents avec l'histoire et l'univers de cette propriété des Gardiens de la Galaxie. Donc, ça choque beaucoup moins. Et au-delà de ça... Je trouve que le film a une, un cœur, une authenticité, une émotion qui manque au-delà des moments un petit peu difficiles. D'ailleurs, je l'ai mentionné sur Twitter et ailleurs, il y a des moments vraiment un peu durs. Si vous êtes sensible au bien-être animal, peut-être qu'il faut se renseigner un petit peu plus avant d'aller voir le film, parce qu'il y a des moments vraiment durs. C'est pas du gore ou des trucs comme ça, mais bon, il y a des moments qui peuvent vous être un peu difficiles. Mais même sans parler de ça, il y a du cœur dans ce film. Et c'est exactement ce qu'on avait dans le premier Gardien de la Galaxie qui faisait qu'il fonctionnait là où il n'aurait jamais dû fonctionner. C'est un film qui n'a aucun sens, auquel d'ailleurs personne ne croyait. Les Gardiens de la Galaxie, une nouvelle équipe entière qui arrive de nulle part, qu'il faut présenter avec des aliens, des arbres et des ratons laveurs, ça n'avait aucune chance de marcher. Et la raison pour laquelle il a marché, c'est qu'il était drôle, effectivement, et qu'il avait beaucoup de cœur. Et au bout du film... Tu avais accompagné ces personnages, tu étais allé sur ce chemin avec eux, et quand tu arrivais à la fin du chemin du premier film, bah, tu étais complètement avec eux. Moi, j'avais adoré le premier, j'avais beaucoup moins aimé le 2, je l'avais même trouvé assez mauvais. Je trouvais justement qu'il tombait trop dans les travers du style gun, qui d'ailleurs, que j'ai pas énormément apprécié. Depuis, c'est-à-dire que Guardians of the Galaxy 2, j'ai pas adoré Winter Special, Holiday Special, je l'avais trouvé vraiment mauvais. The Suicide Squad chez DC, je l'ai trouvé sympa mais sans plus. Peacemaker, la série qu'il a supervisée, j'en ai regardé un ou deux épisodes et j'ai trouvé ça bon, marrant, mais là encore, il a des travers dans lesquels il peut tomber, je trouve, où bah, on se crie dessus, on est un petit peu ridicule. Et l'équilibre entre on se prend trop au sérieux et on se moque trop de nous-mêmes est difficile à trouver. Et je trouve que souvent dans ces productions, il tombe dans l'excès. Enfin, parfois, comme dans Guardians of the Galaxy 1 et maintenant dans le 3, pour moi, il est pile sur l'équilibre qui fait que le tout est élevé. Mais souvent, il tombe du côté où on s'engueule trop, où on se moque trop de nous-mêmes, où rien n'a d'importance, en fait. Et ça peut très vite basculer dans le du génial au médiocre. Là, je trouve qu'il a complètement réussi cet équilibre. Et à vrai dire, alors je l'ai vu qu'une fois, il faudrait que je le revoie, mais j'ai l'impression qu'il a réussi à tous les niveaux et que tous les personnages de cette équipe ont une fin... relativement satisfaisant, enfin un parcours relativement satisfaisant, et on en ressort, satisfait quoi, c'est le mot que je peux trouver, et heureux. Moi, j'en suis ressorti heureux, avec de l'amertume, bien sûr, et je vais pas en dire plus pour pas spoiler. Mais vraiment, c'est un film qui, pour moi, aurait dû conclure la phase 3, en fait. C'est une conclusion de la phase 3, autant que Endgame, et pour une autre partie de cet univers. Et j'espère vraiment que maintenant qu'on a revu quelque chose de qualité, on va pouvoir se remettre dans cette voie-là, plutôt que dans la voie qu'on a... Enfin, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on en a suffisamment parlé, mais la phase 4 et le début de la phase 5, c'est calamiteux à correct, sympatoche. Mais jamais on a atteint les hauteurs des trois premières phases. Même si dans les trois premières phases, il y avait du très mauvais aussi, hein, on est d'accord. Je veux pas spoiler, donc on va peut-être passer à la partie spoiler, à moins que tu aies quelque chose à ajouter là-dessus.
Ouais, j'allais aussi, bah, du coup, sur cet équilibre-là. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que pour moi, ça va un peu trop loin et ça tombe pour moi dans le un peu too much.
Mais qu'est-ce que tu avais pensé du 2, du volume 2 ?
Alors, pour moi, le 2, c'est le pire film à ce jour du MCU tout court. Hein.
Ah, à ce point-là ? Moi, je l'ai pas du tout aimé, mais peut-être pas à ce point-là. Ouais.
Je préfère les Thor 4 et compagnie, hein, vraiment.
Ah oui ?
J'ai vraiment pas aimé.
Tu l'as vu quand ?
Je l'ai revu il y a quelques semaines.
Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Donc c'est vraiment, ouais. T'étais ferme.
Ouais, ouais, ouais.
Pire
ouais,
que Thor 4. Ah ouais, ok,
ouais,
d'accord.
Ouais. Mmh. Et du coup, voilà, sur cet équilibre, je trouve qu'effectivement, sur le film global, oui, mais en fait, il y a vraiment, c'est coupé en deux, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai pas passé un super bon moment sur une grosse partie du début de film.
Mmh.
Ça me faisait pas trop rire, je regardais ma montre, et des personnages qui m'exaspéraient, etc. Et puis, il y a un basculement dans le scénario, où ils arrivent à un endroit, et à partir de là, là, je suis dans le ride à 100%, jusqu'au bout, super ému, super impliqué. Il y a vraiment eu deux phases complètement assez séparées, quoi.
Vaut mieux que ça soit dans ce sens-là en même temps que,
oui, bah, oui, bien
que
sûr.
T'es la bonne partie après qu'avant, quoi.
Bien sûr.
Ok. Ok. Bon, partie spoiler, on commence. 3, 2, 1, spoiler. N'oubliez pas que maintenant, c'est des spoilers. Attends, il y a un signal de spoiler.
Ça, c'est spoilers. Faudra qu'on voit les jingles quand même. Hein.
Ok. Spoiler. C'est... Merde, comment il s'appelle ? Howard Duck, qui vient dire qu'il y a des spoilers.
Ah, oui, d'accord. Oui.
Donc, y a tellement à dire, Johan. Qu'est-ce que t'as pas aimé ? Donc, au début, t'étais pas content du tout avec ce qui se passait ?
Alors, le tout début, la première scène, un peu plan séquence dans leur ville, etc., j'ai trouvé ça vraiment top, quoi. Mais en fait, à partir du moment où...
Donc, quand il y a Rocket avec les écouteurs qui
écoutent la musique... Ouais, avec la musique et tout ça, qui se balade... Donc, en fait, ça démarre assez cool, quoi. Mmh. Et en fait, là, moi, où le bas blesse, c'est vraiment les personnages. Et donc, l'arrivée de ce...
Tu l'as pas trouvé bien, Adam Warlock ?
Ah, je l'ai vraiment trouvé horrible. Je l'ai trouvé vraiment horrible. En fait, j'ai l'impression que Gunn ne sait faire que des neuneux, en fait, tu vois.
Mais complètement.
Et
moi, en fait,
ça m'agace profondément parce qu'ils sont tous, stupides. Et ça, et même les êtres qui sont censés être, tu sais, un peu les êtres supérieurs, même le méchant là,
High Evolutionary,
je trouve tous ces gens là bêtes et j'arrive pas du tout à m'impliquer dans ce qu'ils essayent d'entreprendre. Et je souscris quasiment à rien.
Tu trouves bête
et
le High Evolution. Enfin, il est méchant, méchant. Je suis méchant.
Bah ouais, mais... il est... Bah ouais, c'est ça. Il est censé quand même être, avoir un peu un coup d'avance, être super, super smart, etc.
Et il se laisse mener par son obsession pour
Rocket. Il se laisse mener, mais il s'amuse à faire des créatures, eux aussi, tout stupides. Même la façon dont il a géré Rocket, il aurait pu, il aurait très bien pu mieux le gérer que ça. Enfin, sa population, là, alternative Counter Earth. C'est vraiment, j'ai l'impression que chaque nouveau personnage qui est introduit dans cet univers, même les formes de vie supérieures comme les souverains là, qui sont ceux qui sont tout dorés, je trouve que ça va pas du tout, quoi. Je trouve que ça va pas.
Ils étaient déjà débiles dans le deuxième, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas débiles, on est d'accord.
Et puis bon, en fait, c'est ça, je trouve que ce Adam Warlock là, il apporte rien, en fait. Il est là pour déclencher la quête de ce film. Et ils sont quand même vachement présents, je trouve, hein, que ce soit lui et sa mère. Et je trouve que voilà, c'est des personnages qui m'ont pile au plus haut point.
Ils sont là pour déclencher, oui, mais ils ont été créés pour ce but, tu vois. On l'avait vu à la fin du 2. Et les souverains ont été créés par le High Evolutionary, qui a entendu parler de Rocket et il dit « Ah merde, il faut qu'on le récupère ». Il sait que Rocket est hyper malin et qu'il est avec une équipe qui a battu Ronan, l'accusateur.
Donc il se dit «
Ok, on va faire une créature super puissante pour aller récupérer Rocket ». Donc Oui, il est là juste pour faire ça, mais il sort pas de nulle part non plus, tu vois, c'est pas... Et puis, son... Alors, il est neuneux, mais je trouve que le personnage est intéressant en ce sens que, bon, Adam Warlock, c'est un personnage hyper important dans le MCU, et là où ça te donne un petit peu raison, c'est que normalement, c'est une créature... un être d'une intelligence supérieure qui est torturé, mais adulte, quoi, normal. Et là, ils disent, ah bah, on l'a sorti de son cocon trop tôt, donc c'est un enfant.
Ouais, et mais... les enfants, un ado...
Même pas, ouais, enfin, entre ouais. un ado et un très jeune, quoi, une dizaine d'années. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'il est conçu pour quelque chose, il est contrôlé par sa mère et par son grand-père, on va dire, mais il veut pas, tu vois, il a connu que ça. Et à un moment, il se rebelle en quelque... Même pas, c'est même pas qu'il se rebelle, c'est qu'il se rend compte qu'il n'aime pas ce qu'on est en train de lui faire faire. Et il décide de faire autre chose. Et c'est ça qui est intéressant chez Gunn et dans Les Gardiens de la Galaxie, c'est que tous les personnages sont, oui, un peu couillons, un peu cassés, mais ils réussissent tous, par le pouvoir de la famille et de l'amitié, à surpasser, d'une part à trouver ouais. leur groupe, et à surpasser un petit peu ces limitations, parce qu'ils croient chacun en l'autre. Tu vois, c'est ça qui leur donne la force.
On a déjà, en fait, c'est la manière.
Attends, je vais juste finir sur ce point.
On a déjà 10 personnages qui ont cet arc-là, quoi, en fait.
Pardon ?
On a déjà 10 personnages qui ont déjà cet arc-là, plus ou moins, en fait.
Ouais, mais c'est ça qui est fort, en fait, je trouve, dans ce film, c'est que on le sait, il l'a déjà fait, et pourtant ça marche. Et pourtant, tu sens cette... C'est un petit peu... Star-Lord, c'est un petit peu le Ted Lasso de l'espace. Il a une qualité, c'est son cœur. C'est sa capacité à croire que sa famille est plus importante que tout et à ne jamais abandonner. Et il réussit comme une sorte d'aimant, il a un pouvoir d'attraction, de gravité, tu vois, il attire autour de lui tous les personnages qui lui prêtent un petit peu d'attention, et ils se font infecter par sa bonté. Et même ce qui est fort avec Gamora, c'est que tu sais qu'elle va finir par croire un petit peu en cette qualité de Quill et en la qualité de leur famille. Mais tu te dis, mais comment ils vont réussir à faire passer ça ? Et là, il fait preuve de subtilité, Gunn. Il le fait pas de manière hyper, surécrite. Il n'y a pas de grande scène où à un moment, elle dit « Oh, Peter, je vais te sauver » ou machin. Non, c'est juste qu'elle regarde, elle observe la dynamique, les dynamiques de cette famille. Et les qualités qu'on peut avoir quand on tient aux autres, et elle finit par être, tu vois, infectée par la bonté du truc, et à comprendre comment elle pouvait tenir à Quill, même si elle n'est pas elle-même à la fin, tu vois, elle n'est pas redevenue l'ancienne Gamora, ce qui était un piège dans lequel je suis content qu'il ne soit pas tombé. Mais au fur et à mesure du film... Elle est en spectatrice presque, et elle les regarde, et juste le fait de regarder leur positivité, leur gentillesse, leur bonté, ça la transforme, elle. Et c'est un peu ça qui se passe avec Warlock aussi, c'est un peu ça qui se passe avec tous les gardiens. Enfin, tu peux pas me dire que la scène où Rocket... Tu vois, ils se disent, bon, ok, allez, on se barre, là, c'est fini, c'est terminé, on a failli mourir 15 fois... On va se casser, là, ça suffit. Et Rocket, il dit, bon, bah, vous faites ce que vous voulez, mais moi, j'ai fini de partir. Et il se retourne et il marche, et ils se mettent tous à se retourner. Il y a Gamora qui est derrière, qui dit, mais qu'est-ce que c'est que ces abrutis qui, en même temps, est conquise par ce que veut dire leur volonté d'y aller avec Rocket. Et bien, il y va, ok, ben, nous, on y va aussi, il n'y a pas à tortiller, tu vois. C'est fort, ça. Et ça peut pas marcher si ce n'est pas des abrutis. Tu vois.
Ah bah ça je enfin en fait le fait que ce soit des abrutis ou qu'ils aient tous vraiment des faiblesses tu vois ces criardes c'est ça effectivement en plus chacune de ces faiblesses sont James Gunn y répond quoi c'est-à-dire que ils ont été concons, que ce soit sur trois films ou juste là. Et il y a un moment donné dans le film, dans ce film-là, où ils vont avoir leur moment, où on va découvrir soit une nouvelle facette d'eux, soit on va découvrir que bah, leur faiblesse, en fait, c'est une force, ou ce genre de choses-là. Donc oui, ça me parle aussi. Hein. Et puis, à ce moment-là du film, moi, j'ai eu les larmes aux yeux. Ouais. On va dire du trois quarts à la fin, j'en pouvais plus de pleurer. Quoi. C'était ouais. Vraiment énormément d'émotions qui sont contenues dans ce type de dark narratif, hein, c'est sûr. Et ça me touche forcément. Enfin, moi, ça m'a touché malgré moi parfois. Ou sinon, moi, j'y vais aussi très volontairement. Enfin, y a pas de souci. C'est juste que bah, du coup, moi, sur le reste, voilà, je suis un peu laissé de côté. Quoi. Typiquement, moi, Adam Warlock, on peut faire la focalisation sur celui-là, mais aussi Drax. Voilà quoi, ça, moi je suis plutôt c'est plutôt des arcs qui m'ont fait rouler des yeux et des personnages que j'apprécie pas trop parce que il y a eu du too much vraiment sur trop longtemps pour Drax. Je trouve que son retournement final de
je suis un papa, c'est pas
voilà la vision que les autres ont de lui, parce que finalement lui il a pas forcément, enfin il a son arc de papa, mais c'est surtout la vision des autres qui change complètement, en fait, dans ce film-là. Mais, il sait dire joub-joub et être sympa avec les enfants, mais grosso modo, c'est toujours un abruti violent qui violente les gens, n'importe qui. Là, je rigole, mais
tu vois,
la blague du ballon sur une gamine, moi, ça m'a pas fait rire, en fait, tu vois. Ça m'a vraiment pas fait rire, et pour moi c'est du Drax tout craché, quoi. C'est quelqu'un qui violente les gens et on est censé trouver ça drôle, et voilà, en fait on est typiquement dans le genre de un peu d'humour qui me va pas, et aussi je pense que je suis aussi pollué par le fait que bah, c'est des personnages que tu vois les tout premiers gardiens, quand ils sont sortis, moi je les connaissais pas du tout, je connaissais pas le nom Gardien de la Galaxie, je connaissais absolument aucun des personnages, mais entre temps bah, Marvel m'a fait découvrir les comics, donc entre temps moi j'ai beaucoup lu de comics. Et j'ai même joué à un jeu Guardians of the Galaxy qui m'a montré en fait d'autres personnages qui sont arrivés par la suite dans les Guardians of the Galaxy.
Et c'est ça le problème aussi, en fait.
Je suis peut-être aussi pollué par la vision que j'ai de d'Adam Warlock, de Mantis, en où fait, j'ai vu des incarnations en fait que j'ai trouvé géniales. Et en fait là, j'ai l'impression que Gunn en fait, et c'est peut-être, je fais mon auto-analyse. Mais tu sais, c'est le mandarin, c'est mandarin all over again, quoi.
Ah.
Tu sais, c'est
en fait, t'es en train de nous dire de The Book Was Better.
Ça va être génial. Et en fait, non, il ouvre une bière et il s'assoit sur le canapé. Donc, il y a peut-être de ça, en fait. J'essaie de comprendre aussi pourquoi est-ce que ces nouveaux personnages-là m'agacent, en plus du fait que bah, c'est du gun. Mais du coup, voilà, donc du coup... C'est un peu tout ce mélange-là qui fait que, bah ouais, quelque part, je suis assez content en fait que Gunn
que ça s'arrête
là dans le MCU, mais j'ai un peu des scrupules parce que de toute façon, enfin de toute évidence, quand je vois le film, c'est ce type de production-là, c'est cette envie de réalisation-là et aussi cet amour des personnages-là que j'ai envie de retrouver en fait plus dans mon style, tu vois, sur d'autres films, quoi.
Le même type de film, mais avec au moins quelques touches de sérieux et quelques touches de moins déconnant, ça serait le film que tu veux, quoi.
Ouais, c'est ça. En fait, Gunn, je pense que on va arrêter après autour de son style, mais on a l'impression qu'il part d'une base, tu sais, un petit peu parodique. Il part d'une base un peu parodique, et en fait, il le ramène. À la force du narratif, à la force de sa réalisation, à un truc sérieux en fait. C'est-à-dire que chaque comic relief est en fait devient un enjeu dramatique, puissant, avec une charge émotionnelle, etc. Et c'est plutôt l'inverse qui est fait dans le MCU en fait. Tu vois, depuis les Gardiens de la Galaxie, ils ont fait ah oui, on peut faire ça, et du coup, les personnages qui étaient construits sérieux, ils les ont pris et maintenant c'est devenu des bouffons. Et on est agacé par eux, alors que Gunn a ce chemin inverse là, mais du coup moi sa prémisse me convient pas du tout en fait, et pourtant il arrive quand même à m'amener quelque part, mais voilà, je reste sur cette ambivalence.
Bon, pour toi il est plus volume 2 que volume 1, pour moi il est clairement plus volume 1 que volume 2, je crois qu'on peut le résumer comme ça. Mais il y a quand même quelque chose d'important. Enfin, il y a plein de trucs dont on doit parler. Mais évidemment, le truc qu'on ne peut pas éviter, c'est l'arc... c'est même pas l'arc principal, mais c'est l'arc qui motive toute l'aventure des gardiens sur ce film. C'est l'arc de raton. de raton fusée. Et son historique, son origin story. Ouais. C'est
super, hein.
C'est dur.
C'est dur. Et ouais. C'est tu sais... Enfin, moi, j'ai trouvé ça. Ça pourrait être autonome, quoi. Ça pourrait être autonome. Et même autonome. Enfin, tu vois, ça aurait pu être un special, justement, un special. Mmh. Raccoon Origin Story, un truc de 40 minutes. Et je pense que ça aurait été brillant, en fait. Parce que cette partie-là, elle est incroyable. Elle est incroyable. Les nouveaux personnages qu'ils introduisent dans son Origin Story sont super attachants. Et c'est travaillé pour, hein, parce que c'est important qu'ils soient super attachants. Mais vraiment, 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 j'ai trouvé ça vraiment top, quoi.
C'est marrant que tu trouves autant de qualité au film et qu'en même temps, tu le trouves au final pas...
Bah
pas
ouais, mais
bon,
en fait, c'est juste qu'il s'entoure de choses qui m'agacent et qui me sortent, en fait. Et donc, je re-rentre et puis hop, il y a un truc qui me sort complètement du truc. Et puis,
Écoute, effectivement, je crois que même les gens qui n'auront pas adoré le film, c'est difficile de pas rentrer dans l'histoire de Rocket, quoi. C'est évidemment très dur, et je pensais pas qu'ils iraient aussi loin dans un film Marvel, parce que, enfin, tu vois, il faut que tu commences, si tu veux emmener un enfant voir ce film, il faut que tu commences avec l'ordre de sortie des films et que tu commences relativement tard pour qu'il soit assez vieux, le gamin, quand t'arrives au Gardien de la Galaxie 3, pour que ça le traumatise pas à vie, quoi. C'est chaud, et la manière... Bon, au-delà du ressort émotionnel qui n'est pas forcément facile, mais qui est... Enfin, je ne sais pas si c'est facile, parce que pour te faire ressentir autant d'émotions et de tendresse pour ces personnages, ce n'est pas évident. Mais au-delà de ça, on parlait la dernière fois du Mandalorian et de notre déception qu'il n'ait pas réussi à rendre crédible cette religion de Mandalore avec les casques et les trucs qu'ils n'arrivent pas à enlever et tout. Et à ce moment, on disait, oui, regardez, on a vu à plusieurs reprises dans différentes propriétés de pop culture qu'il est possible de rendre des trucs improbables crédibles. D'ailleurs, entre parenthèses, à propos du Mandalorian, on nous a fait le reproche à plusieurs reprises de ne pas connaître Dave Filoni, qui visiblement est quelqu'un de très connu dans l'univers de Star Wars, parce qu'il a fait les dessins animés, les séries animées.
Qui sont très appréciés, des fans. Hein,
c'est ça. Et qui construisent un peu cet univers. Ce que je comprends, alors Dave Filoni, on a dit, oh, je sais pas qui c'est, parce qu'effectivement, on sait pas qui c'est, on n'a pas regardé ces séries, voilà. Et on nous a dit, ah, c'est dommage quand même de pas le connaître. Ce que je comprends, mais nous, on juge le truc sur le produit qui nous est proposé, c'est-à-dire Mandalorian 1 et 2. C'est comme si... quand tu regardes les films du MCU, tu regardes le MCU. Si on te dit, ah oui, mais si tu connais les comics, ça c'est bien ou ça c'est pas bien, bah, c'est une propriété différente. Et les séries animées, pour moi, sont un truc un petit peu différent. Donc, on peut pas dire dans Le Mandalorian, il y a des trucs qui n'ont pas de sens, qui auraient du sens si tu avais vu les séries animées et dire, du coup, ça excuse. C'est pas tout à fait ce que disaient les gens, mais tu peux juger sur ce que tu vois. Et en l'occurrence, la religion ne tient pas du tout et c'est pas crédible. Alors qu'il est possible de rendre des trucs totalement improbables, complètement crédibles et émouvants. Et c'est ce qui fait Gunn avec l'origin story de Rocket. Alors oui, il y a l'aspect expérimentation sur les animaux qui va tirer la corde de la plupart des humains qui ont un cœur, hein, parce que c'est pas possible autrement. Mais au-delà de ça, le fait qu'il rentre aussi attachant, aussi qu'il donne autant corps au personnage de Rocket Raccoon, qui encore une fois est un raton laveur anthropomorphe, et les autres personnages, c'est une maîtrise de réalisation et d'écriture qui est incroyable. Incroyable. Je veux dire, le groupe des amis qui se forment, qui rêvent de voler dans le ciel bleu infini et qui est enfermé dans sa prison, dans sa cage sombre où il ne voit jamais la lumière, et qui sont des sortes de créatures complètement monstrueuses, littéralement des créatures de Frankenstein bizarres. C'est incroyable. J'ai rarement vu un truc comme ça qui parte d'aussi ridicule et qui réussissent à le rendre aussi réel et aussi fort. Tu m'aurais dit, ah, il y a une sorte de méchant vilain de James Bond qui fait des expériences sur des animaux qu'il transforme en tortue ninja et pour repeupler la Terre. Je me suis dit, ok, bon, ça va, on va rester dans les comics. Nous, on va faire des trucs sérieux du côté des films avec des vraies histoires. Et là, enfin... Quand on a le lapin qui est sur le sol qui dit « Et moi, je m'appellerai Sol parce que je suis sur le sol. » Oh, mais ton cœur fond, quoi. C'est incroyable. Incroyable.
Et même, en fait, même les parties, justement, où Raccoon est seul avec le High Evolutionary et sa progression, en fait... Et même ça, en fait, je trouve ça vraiment super, quoi. En fait, c'est super maîtrisé. Et limite, t'as envie de pouvoir re-raconter des histoires sur ce laps de temps. Tu sais, tu peux te dire, ça, c'est ce moment-là où il est avec ses amis d'un côté et puis où il apprend, en tout cas, il aide à Evolutionary de l'autre et tout. Ça pourrait limite faire un film à part entière, en fait, juste dessus, quoi.
Ouais. C'est évidemment la scène où Rocket meurt et qu'il revoit Leila et que... Oh là là, là j'avoue que... Moi, c'est rare que je lâche ma larme dans les films, mais... Enfin non, c'est même pas rare, en fait. Ça arrive, mais là, c'était clairement... disons que... Si quelqu'un me dit, j'ai regardé ce film et sur cette scène, j'étais tranquille, tu vois, en train de siffloter et ça m'a rien fait, je me méfierais de cette personne, tu vois, mais dans la vraie vie. C'est genre, ok, toi, t'es un peu... je vais m'éloigner de deux pas, on sait jamais, tu vois. C'est complètement... Ça fonctionne à fond, quoi. Est-ce qu'on parle un petit peu des scènes qu'on a aimées? Bon, là, t'as parlé beaucoup des trucs que t'as pas aimés.
Ouais.
Parce qu'il y a plein de scènes qui sont iconiques, je trouve, et qui sont soit des interactions de groupe, soit de la badasserie, qui sont hyper cool et qui fonctionnent vraiment, ou des relations. Tiens, la relation, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, mais la relation entre Quinn et Quill, tu m'as infecté, Quill et Gamora...
ouais.
Moi, j'ai trouvé qu'elle fonctionnait, qu'elle arrivait au bon endroit au bout du compte, et que si on se met dans la peau de Gamora, on est au départ hyper hostile à tout ce groupe d'abrutis, et qu'au final, on ne peut pas ne pas être conquis. Est-ce que tu trouves que cette relation et cet arc pour Gamora fonctionne ou pas ?
Oui. Gamora, pour moi, fait partie justement des arcs... elle a mon regard en fait sur l'équipe tout simplement, quoi. Elle trouve que c'est tous des abrutis et qu'elle a rien à... qu'il faut vraiment qu'elle se casse avant que ça lui retombe dessus, quoi. Donc je suis
oui, mais au final non, mais d'accord, mais ce qui est important,
non, mais effectivement, et j'ai eu le même arc, quoi, finalement.
Ouais, c'est ça, ouais.
Que, à la fin, j'étais si, oui, ils sont cool, tu vois, et donc oui, ça marche à 100%, et je trouve que la cerise sur le gâteau, c'est vraiment quand elle rejoint les Ravageurs et où tu te rends compte que si, en fait, elle a complètement sa famille, en fait, et qu'elle,
ouais,
est, et qu'elle est aussi bien là-bas qu'elle aurait pu l'être, ou qu'elle l'avait été, enfin, que sa version alternative l'avait été chez les Gardiens, quoi. C'est cool, en fait, cette scène en plus, là, tu vois.
Ouais.
Ça m'a assez surpris parce que je pensais qu'on allait justement avoir, elle a rien à faire là, elle s'en va, et puis fin, quoi. Et donc, du coup, cette séquence, cette conclusion là, voilà, je trouve que c'est ça amplifie justement cette relation qu'elle a avec les gardiens, quoi. Du coup,
j'ai envie de le revoir.
J'ai failli le revoir hier.
Ah oui.
Pour aller avec ma femme.
Peut-être que tu aurais corrigé ton avis injuste.
Peut-être.
Je trouve aussi que ce qui est vraiment habile dans l'écriture du personnage, et c'est là que j'ai trouvé que ça fonctionnait mieux que dans le 2, par exemple, c'est qu'il ne tombe pas effectivement dans le piège de la faire retomber amoureuse de Quill ou de leur trouver un moyen de revenir ensemble, et qu'elle n'est pas, ce qu'elle dit à la fin est complètement juste, elle n'est pas l'ancienne Gamora. C'est juste, c'est une autre personne, elle n'a pas la même histoire, elle n'a pas la même évolution. Et elle est quand même conquise par les gardiens et leur groupe, mais elle n'est pas la même personne, donc ça ne colle pas, quoi, ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est à la fois satisfaisant et un petit peu teinté d'amertume, parce que ça ne fonctionnera plus entre lui et elle, c'est terminé. Et donc, d'ailleurs, entre parenthèses, elle et Dave Bautista ont dit que pour eux, le MCU, c'était fini. Ils en ont marre de cette connerie. Ouais.
D'accord.
Mais donc, ça, je trouve que ça fonctionne très bien. J'ai bien aimé un truc que je n'avais pas vraiment adoré précédemment, c'est la dynamique entre Drax et Mantis, qui sont... J'aime bien, en fait... Mantis aime très sincèrement Drax, qui est juste stupide. Il est bête, quoi. Il comprend pas intellectuellement des trucs qu'il devrait comprendre. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne l'aime pas. Tu vois, il y a un truc qui est très vrai là-dedans, c'est-à-dire que, comme c'est le thème pour toutes les relations des gardiens, on accepte les défauts de l'autre. Et peut-être même, d'une certaine manière, on l'aime aussi pour ses défauts. Tu sais, je vais te raconter un petit peu l'histoire de l'évolution émotionnelle de Patrick et de ses relations. Quand j'étais plus jeune, je me disais, imagine une relation, tu trouves quelqu'un dont tu es super amoureux. Et tu peux peut-être tenter par les comics aussi. Tu aimes toutes les qualités de la personne, mais il y a quand même des défauts qui t'embêtent un peu. Imagine une personne exactement identique, mais sans les défauts en question. Eh bien, forcément, tu l'aimes plus. Tu sais, c'est genre, c'est encore mieux, parce que c'est exactement la même personne, mais les trois petits défauts qui t'emmerdent, ils ont disparu. Donc, c'est encore mieux, tu l'aimes encore plus. Et en grandissant, je me suis rendu compte, et peut-être en rencontrant ma femme aussi, si tu aimes vraiment quelqu'un et si ça colle vraiment parfaitement bien, même les défauts, en fait, que tu reconnais objectivement comme étant des trucs qui sont un peu des défauts, tu les aimes quand même. Et tu aimes la personne encore plus pour ses défauts. Tu sais, y a quelque chose, enfin, c'est un trope ridicule dont tout le monde parle, voilà, tu aimes une personne entière, même ses défauts, et les défauts te font... c'est vrai. Et là, je trouve que c'est hyper bien représenté par leur relation à eux, des gardiens, et par la relation de Mantis et Drax. Imaginons un Drax qui ne soit pas stupide, mais c'est juste plus la même personne. Et si t'aimes Drax, s'il fait partie de ta famille, et s'il fait partie de ton groupe, de your people, c'est exactement comme Gamora. Si c'est plus la même personne, peut-être qu'elle est meilleure, mais juste différente, c'est pas la même et tu l'aimes... Enfin, c'est plus la... Peut-être que tu pourrais l'intégrer, l'aimer aussi, mais là, c'est plus la même personne. Et c'est très juste. Et la manière dont... Mantis et Drax, il y a cette scène évidemment dont tout le monde se souviendra, où elle lui dit, il lui dit « Mais est-ce que tu penses que je suis stupide ?» Et elle lui dit « Bah oui, t'es stupide !» Et là, il est dévasté, quoi. Parce que, tu vois, ça le touche énormément, il est heurté. Et elle, qui se rend compte qu'elle est allée trop loin et que oui, il est stupide, mais c'est pas ça qui est important. Et là, c'était un poignard qu'elle aurait pas dû employer parce qu'elle voulait pas le dire de cette manière. Elle lui dit « oublie immédiatement ». ça, cette scène donne à Drax justement la profondeur qu'il ne... c'est une toute petite scène et il n'est pas très exploré le personnage, mais une profondeur qui fait que le personnage marche, je trouve. Et donc cette relation entre Mantis et Drax, qui sont amis au sens le plus pur du terme, qui ont une amitié, qui partagent une amitié très profonde, fonctionne là. Parce que quand elle dit « tu es stupide » et qu'elle le regrette vraiment, tu vois, elle dit « j'ai fait du mal à mon ami et je fais un truc que je ne veux pas faire, que je ne dois pas faire, c'est utiliser mes pouvoirs sur mes amis » et elle le fait quand même parce que c'est trop important, elle ne veut pas endommager leur relation. Tu vois, il y a quelque chose, même dans cette petite scène, quelque chose de comment dire, d'important pour ces deux personnages dans le film, quoi.
Mmh. Ouais, je suis assez aligné avec toi là, sur cette scène-là, effectivement. C'est un truc assez notable, hein, mais c'est assez notable aussi parce que le reste du temps, que ce soit Mantis ou Drax, bah, je pense que c'est peut-être les deux personnages avec Groot, finalement, les moins... les moins creusés, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont quand même un peu stupides, rigolos, même Mantis. Hein, elle fait des choses un petit peu...
Ouais, ouais. C'est un petit peu les clowns.
C'est vrai, c'est ça. C'est un petit peu les clowns dans 99% du temps sur tous les Gardiens de la Galaxie. Effectivement, heureusement qu'il y a quand même quelques petites scènes comme ça pour rappeler que, bah, non, il y a un peu quelque chose derrière. Pour moi, ça reste très léger. Et du coup, oui, pour juste revenir un peu sur ces Drax et Mantis, là où moi, en fait, ça marche pas, c'est qu'ils sont responsables, on va dire, à 80% des choses qui m'agacent, en fait, dans cette dynamique de groupe-là. Et pour moi, la scène symptomatique, c'est la scène où ils arrivent sur l'ergoscope, là, l'espèce de station organique.
Ouais, quand ils arrivent à moto et qu'ils ont abandonné leur poste et que...
Et alors la scène symptomatique pour moi c'est vraiment où la scène où Star-Lord fait sa déclaration, enfin en tout cas fait son monologue à l'attention de Gamora, et où en fait il se rend compte que c'est en train d'être broadcasté parmi toutes les combinaisons, et tu sais il y a ce
truc, oui, d'accord.
Ouais, donc après t'as le truc des couleurs là, maintenant le bleu c'est le jaune, le machin. Et puis du coup pour tester Mantis elle va hurler, tu sais,
ouais.
Elle va hurler, ça va casser les oreilles de Star-Lord. Voilà, pour moi ça ce genre de dynamique où on hurle où il y a des loufoqueries sur les, voilà, c'est pour moi et Mantis, ouais, pour moi c'est ça à 99%. Et ce qui fait que bah, la scène dont tu parles elle est importante, mais du coup moi voilà, ça a pas eu l'impact que ça aurait dû avoir, ouais. Je pense
que tu détestes déjà les personnages. Qu'est-ce que tu penses de l'arc de Nebula, du coup ?
Vas-y.
Qu'est-ce que tu penses de Nebula, qui, pour le coup, a sans doute l'arc le plus complet, ouais, et le plus complexe de tous les Gardiens de la Galaxie ?
Alors là, je pense que je dois manquer des pièces de puzzle, en fait.
Ah oui ?
C'est-à-dire que... Ouais, je crois que c'était déjà le cas le Christmas Special. Mmh. Je m'étais pas rendu compte à quel point elle était devenue sympa et gentille, en fait. J'ai l'impression que c'est out of nowhere, qu'elle était très...
Il y a quand même Endgame.
Ouais, bien sûr, mais en fait, j'ai pas vu venir son évolution, et du coup, j'ai l'impression que je suis quand même passé d'un personnage très... C'est un personnage très, très particulier, parce que elle était quand même torturée, donc si elle s'est sortie de l'emprise de Thanos, c'est par esprit de revanche, en fait, et de vengeance, quoi. Donc, pour moi, elle était restée un peu dans cet esprit-là, quoi. Ça en faisait pas une gentille pour autant, et ok, elle suit sa sœur et machin, et là, c'est limite le personnage le plus sensible de la bande, quoi. Capable de se sacrifier, parfaitement comprendre les sensibilités de chacun, c'est-à-dire que quand elle appelle Gamora justement pour venir les aider, elle a parfaitement compris que ça allait blesser Quill ou que ça allait poser problème, tu vois, d'un point de vue émotionnel.
C'est pas hyper subtil non plus.
Non, mais c'est, pour moi, c'était un robot, tu vois, il y avait un côté un petit peu, tu vois, insensible, etc. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte dans ce film-là, maintenant, en fait, ce personnage-là, c'est un personnage qui arrive à comprendre parfaitement, en fait, les dynamiques de groupe et les sensibilités de chacun, et du coup cette évolution-là me paraît étrange, mais je me dis que vu que j'aime pas trop les Gardiens, j'ai peut-être pas porté assez attention à ce personnage-là. Donc, toi, t'en penses quoi, toi, du coup ?
Bah, je la trouve bien, moi. Je trouve que, oui, il y a peut-être une petite ellipse entre Endgame et le Christmas Special ou ce Gardien de la Galaxie. Mais c'est minime, quoi, parce que déjà, dans Endgame, elle a pris sa décision. Elle a décidé qu'elle était... qu'elle allait se battre contre Thanos et elle aide... Enfin, tu vois, c'est déjà quand elle est dans le vaisseau avec Tony Stark après Infinity War et qu'elle essaye de l'aider, qu'elle lui file, je sais plus quoi, à manger, tu vois, elle lui dit non, c'est bon, vas-y. Mmh. Tu vois, elle a déjà pris sa décision et le cheminement a été peut-être un petit peu... s'est passé en dehors des caméras. Mais là, ça fait quelques années qu'elle est avec les Gardiens de la Galaxie. Ça me paraît pas du tout incohérent. En plus, c'est pas qu'elle est gentille, genre « Oh, mon pauvre Star-Lord, j'espère que tu ne vas pas. » C'est genre, elle fait des comment dire, elle grunte tout le temps, genre « Ouais, bon, maintenant, cette fille, on va faire ça. » Tu vois, elle est brusque, elle est... Et elle a le cœur tout mou à l'intérieur. Enfin, même pas tout mou, mais elle a décidé que, comme tous les autres, bah, son groupe, c'est eux. Et si Rocket est en danger, bah, elle va l'aider. Et en plus, accessoirement, Rocket, il a été torturé, remis en place encore plus qu'elle ne l'a été.
Ouais, donc, alors j'ai mis un doute quand même.
Ouais, que... peut-être, ouais. Bon, ouais, ils nous ont pas tout montré, hein, mais tu vois bien qu'il a une morphologie qui est un petit peu différente d'un raton laveur et que c'est pas un robot, donc on a enlevé des morceaux, on a remis des trucs, on a mis des morceaux de métal pour qu'il soit anthropomorphe, etc. Visiblement, ça a été peu importe, mais moi l'arc de Gamora me paraît qu'elle passe de et en plus elle avait sa sœur à laquelle elle tenait déjà, même au début où elle était martyrisée par sa sœur et Thanos. Elle avait quand même, elle travaillait ensemble, c'était sa sœur et elle était, il parlait de, enfin elle parlait de se rebeller contre Thanos déjà, tu vois, il y avait déjà une graine d'un truc, quoi. Donc non, moi je la trouve bien et au final je peux complètement accepter, alors que entre les deux, entre Gamora et Nebula, évidemment c'était Gamora que je préférais, c'est genre ah elle c'est un personnage cool, Nebula elle est un petit peu machin, même si dans les comics je l'aime beaucoup Nebula aussi, mais au final, je finis cette épopée en tenant beaucoup plus à Nebula. Enfin, je ne sais pas si on peut dire que je tiens plus à Nebula qu'à Gamora, mais tu vois, Nebula, je trouve qu'elle a été construite, elle a un corps, elle a tu vois, c'est un vrai personnage auquel je tiens beaucoup plus que ce que j'imaginais, quoi. C'est plus un personnage secondaire, je trouve.
Donc, je pense que c'est le film où elle est le plus badass, quoi. Elle est assez incroyable là-dedans.
Oui, en plus, c'est pas ça qui me fait. Mais oui, c'est presque plus le Niger des Gardiens que.
Ouais, bien sûr, clairement.
Un truc que j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé Cosmo, qui est vraiment un chien, tu vois. Je trouve qu'ils insistent un petit peu trop sur le truc bad dog, évidemment, qu'au final, il va dire « Ah, she's a good dog », mais bon, c'est marrant. Et puis la manière dont Cosmo... tu vois, mais Cosmo est crédible aussi, quoi. Il n'y a pas de problème, c'est Cosmo. C'est un chien télépathe qui fait de la télékinésie, qui aplatit un des... comment il s'appelle ? Les Blood machin, les Blood Ravagers, avec ces deux morceaux de mur. Je trouve ça très bien. Mais non, un truc que j'ai adoré, c'est justement, comme j'avais pas vu les trailers, quand ils disent Nowhere, le quartier général des Gardiens de la Galaxie, moi je pensais, ah bah ils ont leur quartier général sur Nowhere, tu vois, c'est là-bas qu'ils ont établi leur quartier général. Et quand Nowhere débarque pour faire exploser la base du High Evolutionary, tu te dis « Ah non, 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 en fait, Nowhere, c'est la base des Gardiens de la Galaxie. C'est pas qu'ils ont mis leur quartier général là-bas. C'est leur quartier général. Ils ont des canons, des machins. » Et j'ai adoré ce moment de découverte, alors que c'est partout dans les trailers et ça m'aurait beaucoup, tu vois, déçu de ne pas le découvrir, même si j'aurais pas su. J'ai adoré ce moment où on voit que c'est Nowhere entier qui débarque, parce que c'est ça leur QG, qu'ils conduisent avec un volant de...
J'aime beaucoup le gag où ils passent par le trou de verre, mais ils ont du mal parce que le truc est trop gros. Et du coup, il a du mal à arriver, par leur... leur méthode de déplacement, tu sais, ciel machin et tout, où justement ils sont trop gros et ils ont du mal à arriver par ce truc-là. De toute façon, toute cette partie-là du film, je la trouve incroyable de bout en bout. Quoi. Là, c'est cette partie. Il y a Cosmo, il y a les pouvoirs, il y a tous les personnages qui sont là et qui explosent leur potentiel. Donc, j'ai oublié son nom, mais celui qui a pris la relève de Yondu avec le sifflement, là, le machin.
Oui, merde, comment il s'appelle déjà?
Ouais, j'ai oublié le pauvre.
je vais te le retrouver. Kraglin.
Et du coup, c'est vraiment, c'est une fête, hein, là, ce moment-là où tout le monde arrive, machin, le gros vaisseau, effectivement, comme tu le dis, qui débarque et machin et tout. Non, vraiment, je pense que tu vois cette partie-là du film, je pourrais la revoir un grand nombre de fois.
Ouais. La scène, enfin il y a plusieurs scènes d'action, mais évidemment celle où il décide de faire demi-tour est vraiment la scène où j'en ai déjà parlé, mais il faut que j'en reparle parce qu'elle est tellement incroyable. La scène où Rocket dit bah non, moi j'y vais, et qu'il y a même pas de discussion, il y a même pas de, même pas besoin de regard, c'est tout le monde comprend, tout le monde sait ce qui se passe, et tout le monde se retourne en même temps et il va. C'est tellement émouvant et satisfaisant à la fois. Et c'est ce moment où Gamora comprend, enfin c'est même pas qu'elle comprend, c'est qu'elle, à la limite, elle se résigne à suivre Ted Lasso et à être gentille. Pas gentille, c'est pas juste gentille, mais wholesome. Elle se résigne à être quelqu'un de bien et qui écoute son cœur, tu vois. Et donc, elle se retourne. J'aurais aimé qu'elle fasse un peu plus, tu sais, un soupir ou genre, mais...
Elle a l'air dépitée quand même.
Elle a quoi ?
Elle a l'air dépitée quand même.
Ouais, bien sûr, mais j'aurais aimé qu'il y ait un signe genre de résignation qu'elle montre, genre... Ok, bon, bah, très bien, tu vois, ok, c'est comme ça que ça marche, je vais y aller aussi, mais bon... Il y a cette scène donc, où ils se retournent tous, la troisième group shot au ralenti, tu vois, et après... La satisfaction de cette scène de combat qui est... C'est genre un plan séquence, presque, où ils se battent tous... C'est l'une des meilleures scènes d'action du MCU, quoi. Où ils sont tous dans cette grande salle couloir.
C'est ce que j'appelle une bagarre de couloir.
Ouais, voilà. et cette bagarre de couloir-là, elle est incroyable. Et elle est tellement satisfaisante parce que ça vient, tu vois. Rocket est revenu. On sait qu'ils ont réussi et maintenant c'est leur moment d'être badass et de gagner, quoi. C'est à leur tour de gagner, alors qu'ils se font taper dessus du début à la fin. C'est leur tour de gagner et ça marche.
C'est une des meilleures scènes d'action tout court, hein, de tout le MCU, je pense.
Ouais. Faudrait que je la revoie, mais j'ai l'impression.
Il y a une vraie dynamique entre les persos, donc tu les vois qui s'entraident, machin. Enfin, c'est vraiment très très collectif, quoi, comme baston.
Ouais.
Même si j'aime beaucoup les combats dans Endgame, il y a pas de synergie à ce point-là, quoi, ou très peu. Et je la trouve vraiment super bien, quoi, cette séquence-là. J'ai vraiment envie de la revoir pour le coup.
Ouais.
Mais voilà.
Pareil. Et j'étais tellement content que le film s'arrête pas là, tu sais, qui est encore, allez, on va sauver les higher life forms. Et quand Mantis voit la sorte de bestiole immonde là et qu'elle crie, je criais pour quelqu'un. Le truc qui était derrière toi, t'as l'air vraiment cool, hein. C'est tellement con, mais ça marche. Et qu'ils décident, bien sûr, Rocket, d'aller récupérer tous les petits ratons laveurs et tous les animaux, quoi. Et il dit, bah non, on va tous les prendre. Tous. Mais ils ont déjà battu le High Evolutionary à ce moment. La tête, je trouve que c'est très bien géré et programmé. Le visage qu'on voit qui est collé par-dessus sa tête pendant la moitié du film, on comprend évidemment... Oh là là, cette scène... Cette scène quand il arrive et qu'il tire, que tout le monde tire sur le groupe, que Rocket n'a rien et que tous ses potes sont morts.
Ah oui, horrible.
Et que Flore, je ne sais pas comment il l'appelle, Sol en français, et qu'elle lui dit Rocket, pas ici, Rocket, pas ici. Genre, elle lui dit mais barre-toi, sauve-toi toi-même, quoi. Mais c'est. et qu'il lui déchire le visage. Qu'il lui déchire le visage, qu'il lui saute dessus, il lui déchire le visage et on comprend du coup. C'est hyper bien construit, quoi. Même si le méchant n'est pas le meilleur méchant de l'histoire, j'ai beaucoup apprécié que dans la scène où ils sont sur son poste de commandement, là, avec Peter Quill, d'une part, qu'au final, enfin, les sergents, les adjudants, les sous-chefs du High Evolutionary finissent par dire « Non, mais là, ça suffit, quoi. T'es obsédé, t'as une obsession qui est... Tu nous mets tous en danger, ça suffit, qui font une mutinerie. » J'ai beaucoup aimé que Peter lui dise, alors que c'est le cinquième méchant de James Bond qui justifie ses méchantes actions, qui lui dise « Non, mais c'est bon, j'ai pas besoin d'un mégalo qui justifie sa folie encore. C'est bon, ferme ta gueule, c'est terminé. » J'ai apprécié qu'ils reconnaissent, tu vois, que le film fasse un clin d'œil au public, genre on sait qu'on a des méchants super, super vraiment méchants, machin. J'ai beaucoup aimé le plan de Quill, qui avait un plan. Bon, il aurait pu le raconter, ça aurait réglé tous les problèmes, mais qui avait un plan pour s'échapper et que son plan a marché. Qu'est-ce que tu as pensé de Rocket qui ne tue pas le High Evolutionary au final ?
Tu vois, j'avoue que ça m'a pas gêné,
est-ce que t'aurais voulu qu'il lui mette une balle dans la gueule ou...
Ouais, à la limite, je pense que j'aurais préféré. Finalement, c'est un trope pareil. Hein, ouais. J'ai compris que c'était plus important d'être intègre et machin, et de pas tuer le méchant. Enfin, c'est un truc assez classique.
Ouais.
Non, ça m'a pas spécialement marqué. Par contre, je m'attendais vraiment à un payoff sur la blague. Tu sais, la blague.
It's a face-off.
Oui, c'est ça, exactement. C'est un piège. Non, c'est pas un piège. C'est un face-off. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une phrase, tu sais, après avoir arraché le visage, quoi. Et je l'attendais, en fait. Et en fait, c'est pas arrivé. Et je trouve que c'est très bien que ce soit pas arrivé.
Ah oui.
Parce que du coup, c'est. Bah ouais, parce que du coup, ça... je pense que la blague, elle existe. Je pense que vraiment, ça a été pensé pour ça. Et qu'il n'y a pas forcément besoin, en fait, d'en rajouter une couche. C'est-à-dire qu'ils répètent face-off tout le long du film. ils enlèvent le visage. Bon, tu vois, pour moi, ça marche. Et il n'y avait pas besoin de refaire un plan, tu sais, serré sur Quill qui dit « It's a face-off », hein, tu vois, un truc comme ça.
Je pense que je pourrais imaginer qu'ils aient tourné la scène avec Drax qui fait genre « Ah, it's a face-off !» Et tu sais qu'il se retourne vers Mantis genre « I get it now ». Tu faisais un truc du genre et qu'il les coupait au montage parce qu'il disait ça faisait trop. Ouais.
Exactement. Du coup, tu voulais revenir sur Rocket qui tue pas.
C'était la question. Moi, il aurait pu le tuer. C'est pas grave. Et comment dire, je suis pas mécontent que Rocket, tu vois, s'élève au-dessus de. Parce que c'est ça la leçon, en fait, des super-héros au final, c'est être meilleur que les méchants. Et oui, il tue 40 millions de personnes dans le vaisseau et tout ça. Mais là, il a le choix et c'est un choix qui est important pour lui, qui veut dire quelque chose sur qui il est. Et évidemment qu'il ne le fait pas. Bon, est-ce que ça veut dire que le High Evolutionary reviendra à un moment où est-ce qu'il a explosé dans son vaisseau ? On ne sait pas, à la limite, c'est pas important. Mais oui, je trouve que c'est pas si mal, même si c'est classique, même si c'est machin. Bon, bah, c'est ça, les héros, c'est des gens qui surpassent leurs instincts et qui sont meilleurs que les méchants qui, justement, se laissent aller à leur bassesse, quoi. Donc,
Par contre, je sais pas toi, mais j'ai vraiment sincèrement cru que ça y est, ils allaient tuer Star-Lord.
Oui, bah oui, tout le monde a pensé ça, évidemment. Ouais.
En plus, cette scène-là, c'est vraiment jusqu'au bout, tu sais, tu te dis, mais non, ils vont sauver et tout ça, machin et tout. Et en fait non, et en fait, si. Moi, ça a assez marché hein, quand même sur moi. J'étais vraiment.
Ah oui, moi, j'ai pensé qu'ils allaient les tuer, oui, bien sûr.
Ouais, parce que d'habitude, dans ce genre de film, tu te dis, mais non, il va se passer un truc.
C'est dur, en fait, d'arriver à te faire croire, même pendant 2 secondes, qu'ils vont vraiment le tuer. Et évidemment qu'ils ne le tuent pas, mais qu'ils réussissent à te faire croire qu'ils vont vraiment le tuer, c'est déjà fort, je trouve.
Mais ils auraient pu le tuer, parce que tu disais tout à l'heure qu'il y a des acteurs qui disent qu'ils veulent en finir avec le MCU, machin. Tu peux très bien imaginer que l'acteur se dise « Non, mais son gun, ça m'intéresse plus trop. De toute façon, j'ai une carrière ailleurs, etc. Donc je veux qu'on me sorte du film, quoi. » Enfin, de la saga. Et du coup, ouais, j'y ai cru vraiment jusqu'au bout. Et d'ailleurs, ça me fait penser, parce que du coup, tu mentionnais les spoils de la bande-annonce, et du coup, les spoils peut-être en général, mais là, depuis que le film est sorti sur TikTok, j'ai énormément d'extraits, de making-of, etc. Et je ne sais pas si tu es tombé dessus, sur justement, donc tu as la séquence où, les gardiens le portent, je crois que c'est Nebula qui le porte. Qui porte ouais. Quill et qui marche un peu au ralenti. Est-ce que tu as eu les éléments de making of sur cette séquence-là?
Pas du tout.
Alors c'est pas l'acteur. C'est quoi son nom d'acteur déjà? C'est Chris Pratt. C'est pas Chris Pratt qui est qui est inanimé et qui se fait porter. C'est un props quoi. C'est.
Ouais. Bah je pense qu'il est un peu lourd pour.
Icône machin.
Pour que Zoé Saldana le porte à bout de bras, Chris Pratt, quand même, il est pas tout petit.
c'est ultra réaliste. C'est-à-dire que vraiment, tu fais un gros plan sur le visage, tu penses que c'est Chris Pratt, et du coup, tu as plein de séquences de l'équipe qui s'amusent, en fait, avec le cadavre de Chris Pratt.
Tu veux dire que c'est même pas ça a été retouché en image de synthèse après. C'est vraiment un faux Chris Pratt. Ah, d'accord, ok.
Ouais, c'est un faux Chris Pratt. Donc, James Gunn dit, ouais, je l'avais dans mon bureau, sur le canapé.
Genre Chris Pratt boursouflé de son voyage dans l'espace.
Alors non, même pas boursouflé, vraiment réaliste.
D'accord.
Chris Pratt.
Ok, très drôle. Mais justement, dans cette scène, le fait que Warlock arrive, et tu vois, parce que... je trouve que pour le peu de scènes qu'il a, Warlock, je trouve que le personnage est quand même... tu le comprends vachement, il évolue. Et oui, c'est un dum-dum. Mais au début... Tu comprends qu'il est, tu vois, quand, même quand il arrive, il est genre un garçon, comment dire, impetueux, il est un peu genre, je vais les casser, et puis il se fait à moitié tuer par Nebula, et puis il s'en va genre, je suis pas content, il se barre. Et puis il y a les scènes avec le High Evolutionary et sa mère, et la scène où elle lui dit « Show him we mean business ». Et il l'incinère, et tout le monde est genre, mais tu sais, c'est limite, merde, Quentin Tarantino, quoi, cette scène, je trouve ça assez drôle. Et puis, il a cette petite bestiole qu'il adopte, et quand Nebula lui dit, je sais plus ce qu'elle lui demande, mais elle lui dit, machin, this weird thing gets it, et lui dit, don't be rash now. Tu vois, c'est genre, non, mais du calme. Tu vois, tu sens qu'il commence à tenir à quelque chose, et que là aussi, c'est le début d'un truc, et après, on le voit plus trop. Et au final, quand il vient sauver Peter Quill, tu t'y crois, quoi. Tu dis, OK, bon, bah, il n'a plus rien, sa mère est morte, le High Evolutionary est mort, machin. Et lui aussi, il se met à faire partie de... Enfin, il choisit à ce moment, il dit, bon, bah, OK, bah, je vais le sauver. Il aurait pu être content que celui qui est responsable, d'une certaine manière, de la mort de sa mère, qui est, bon, enfin, sa mère un petit peu abusive, machin... Il le regardait mourir dans l'espace, tu vois, mais non, il choisit d'aller le sauver. Ça fonctionne, quoi. Enfin, bon, je trouve que même pour ce personnage pour lequel il doit avoir 4 minutes montre en main à l'écran, il réussit à lui imprimer une petite évolution, un petit arc, quoi.
Je serais, tu pourras pas me convaincre.
Non, c'est
Adam Warlock,
il est bien loin du Adam Warlock des comics, ça je te le concède.
Ouais. Je verrai bien si parce que je suppose qu'il reviendra à un moment ou un autre dans le MCU, donc ça serait intéressant de voir comment les prochains auteurs réalisateurs se réutilisent ces personnages là quoi. Parce que du coup, ça doit être intimidant parce que voilà, on disait Gunn a eu la main sur ces personnages-là de bout en bout. Donc maintenant, j'espère que ça sera pas une. Voilà. J'espère qu'ils arriveront quand même à garder, on va dire, la cohérence de ces personnages-là maintenant qu'ils sont là et voir comment ils arrivent à les faire évoluer. Tu parlais de personnages dum-dum, il y a un dernier personnage auquel on n'a pas parlé, c'est celui de Nathan Fillion.
Ouais.
C'est toute cette séquence-là, toi, t'as. Ouais, pas plus que
ouais,
ça.
On n'a pas parlé de toute cette séquence. Il y aurait des choses à dire, effectivement. Ouais. J'ai bien aimé la manière dont Chris Pratt, tu vois, on pense qu'il va vraiment faire quelque chose avec, comment elle s'appelle, Uhura ou Yura.
Yura.
Et qu'il la manipule vraiment. tu vois, c'est pas genre « tell them your truth », et qu'en fait, il le fait pas du tout. Et c'est vraiment, tu sens qui est Peter Quill, quoi. C'est une sorte de filou.
Ouais, bon, j'étais super surpris et content, parce que du coup, c'est vrai qu'on oublie que c'est pas juste un abruti, ce mec, quoi.
Ouais.
Il a son efficacité, quoi. Et c'est vrai que c'est ce genre de scène, c'est cool de les avoir, quoi.
Et malgré ça, tu vois, il manipule les gens. Enfin, c'est un criminel, quoi. Tu vois, c'est ok, c'est les gardiens de la galaxie, mais à la base, oui, c'est un héros, mais c'est un petit peu un anti-héros. C'est un voleur, c'est un Arsène Lupin, tu vois. Et il dit à toute son équipe, mais non, on va pas tuer les gens, quoi. Pourquoi est-ce que ta première truc, c'est d'aller, non, on va tuer personne. Mais pourtant, il va aller manipuler la nana en lui faisant croire que machin, et puis au final, il va désactiver le truc, tu vois. Je trouve que ça fonctionne. Nathan Fillion, c'est un mec que j'aime énormément parce que Firefly, tu vois. Et j'étais un petit peu déçu que son rôle soit aussi réduit et qu'il... Bon, il est marrant, mais tu vois, c'est un personnage secondaire, quoi. Donc, je suis content qu'il soit dans le MCU parce que j'aime l'acteur, j'aime ce qu'il a fait. Mais j'ai pas été follement émerveillé par son personnage, quoi.
Non. Fair enough.
Ouais.
Si.
On pourrait en parler encore pendant très longtemps. Moi, j'ai très, très hâte de le revoir, mais je pense qu'on peut mentionner les deux scènes post-génériques quand même.
Ah oui.
Et dire ce qu'on en a pensé. Donc, la première, avec Rocket et sa nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie, qui est composée de Rocket, Groot, Adam Warlock, Kraglin et Phyla. Que moi je ne connaissais pas, mais qui est un des personnages qui porte le titre de Captain Marvel, entre autres, dans l'univers de Marvel, donc des comics. Donc Phyla, peut-être qu'on la reverra à un moment, mais enfin bon, elle est là dans les nouveaux Gardiens de la Galaxie de Rocket. Je ne pense pas qu'on les reverra ailleurs, mais c'était cool de voir cette... Enfin, peut-être qu'on verra un ou deux des personnages, mais c'était cool de voir
Je pense que cette équipe-là interviendra très probablement dans le prochain truc gros Avenger où tout le monde est là, quoi.
Dans Secret Wars.
Ouais, c'est ça. Mmh. Ouais.
Ouais, ouais. Je pense qu'on les verra effectivement au moins dans Secret Wars, qui réunit tout le monde. C'est un petit peu un Endgame bis, quoi.
Après, il y a Thor aussi. Enfin, il y a Thor qui est dans son coin avec sa fille adoptive.
Avec Love.
C'est quand même des. Ouais, non. C'est ça. C'est quand même des. Si c'est Love, c'est ça.
Ouais, ouais. Lui c'est Thunder et elle c'est Love.
Voilà, c'est quand même des personnages donc Thor et Gardien de la Galaxie qui ont un rapprochement donc qui sont capables de se recroiser. Donc voilà. S'il y a un Thor 5, je sais pas. C'est bien possible qu'on les retrouve aussi là, quoi.
C'est possible, ouais. J'espère qu'ils enlèveront tort à Taika Waititi. Peut-être. Et puis, la deuxième scène post-générique, évidemment, c'est celle de Peter Quill qui va voir son grand-père. L'acteur, évidemment, qui n'a pas plus de 90 ans, mais qui essaye de faire genre. C'était sympathique. C'était cool de le voir enfin. Pourquoi pas, c'était un petit peu artificiel l'histoire des. Il passe d'un nénuphar et puis il faut qu'il plonge dans le lac. Mais ça marche, c'est une image, c'est une métaphore, tu vois, qui tient. Et c'était marrant d'ailleurs le passage des métaphores avec Quill et machin. Cette scène, je l'ai trouvée pas mal. Et le fait que ça marche sur Quill, qui disent Ah oui, mais en fait, tu crois que vraiment je me suis accroché à. Aux femmes pour ne pas aller, tu vois. Et en plus, ça, c'est cohérent avec le personnage depuis le début. Tu te souviens que c'était une sorte de séducteur qui passait son temps. Bref. Et donc, il rentre enfin sur Terre. On n'a même pas parlé du fait qu'ils se séparent, les gardiens. C'est arrivé un petit peu vite, mais why not? Je trouve que ça tient. Il était temps, quoi. Il était temps, ils auraient pu rester ensemble. C'est un peu artificiel, genre, ah merde, il s'en va, Mantis s'en va aussi.
Ouais, après, dans ce genre de groupe, ce qui arrive, c'est que s'il y en a un qui part... Tu sais, ça provoque une réflexion pour tout le monde et souvent, t'as plein d'autres personnes qui partent en même temps. Donc, moi, ça m'a vraiment pas choqué, quoi.
Ouais, ça m'a pas. Moi-même, dans mes différents groupes de super-héros, quand ils se sont séparés, c'était un petit peu comme ça que ça s'est passé aussi. Ouais, je te confirme, t'as raison. Mais donc c'est marrant, je dis ça et je pense à mes différents. Et, bon, enfin, tout le monde a des groupes et tu vois les trucs genre les No Watch et les machins, et les différents podcasts et les groupes de Frogpants. Enfin bon, bref. Et donc, il arrive sur Terre, il est sur Terre et on a à la fin le truc le plus important de ces scènes post-génériques: The Legendary Star-Lord will return. Ce qui est la première fois que l'un de ces trucs où on annonce qu'un personnage revient est vraiment important, parce que tu comprends que... enfin, il y avait une vraie question. Est-ce que Star-Lord allait rester dans le MCU ou pas? Enfin, en tout cas, est-ce que Chris Pratt allait rester dans le MCU? Bon, peut-être que ça ne sera pas Chris Pratt qui jouera Star-Lord, mais a priori, il n'y a pas de raison qu'ils en changent. Et il reste dans le MCU. Est-ce qu'il y aura des films? Peut-être un Gardien de la Galaxie 4, peut-être juste un film Star-Lord, peut-être, bon, simplement qu'il sera là dans, dans Secret Wars comme d'autres, dans quelques années. Moi, j'étais super content. Qu'est-ce que tu as pensé de cette annonce qu'il n'était pas...
Du coup, moi, je n'ai pas forcément super compris cette scène post-générique, en fait. En tout cas, je suis parti en ayant l'impression d'avoir loupé, d'avoir mal compris un truc.
Sur quel point?
C'est juste on est d'accord que c'est juste une discussion de lui avec son...
Avec son grand-père, oui.
Il n'y a rien de particulier, il n'y a pas de...
Alors, il faudrait que je le revoie. J'ai cru comprendre qu'il parlait genre du neveu du grand-père ou d'un autre membre de la famille.
Mais du coup, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, en fait.
Alors, je ne sais pas non plus. Je me demande s'il n'y a pas genre le cousin de Star-Lord qui va arriver à un moment. Je n'ai pas compris. Dans les comics, je ne connais pas assez bien Star-Lord pour savoir s'il a un cousin terrien bizarre. Peut-être qu'il y a un truc comme ça, peut-être que c'était juste une conversation. Vous pourrez nous dire sur le Discord si on a raté un truc effectivement sur un autre personnage, et peut-être que c'était juste une discussion avec son grand-père, genre ah ouais, ton petit-fils, ton autre petit-fils ou ton neveu, je sais pas quoi, il est vraiment paresseux, et peut-être que c'était juste ça pendant que Star-Lord mange des céréales et qu'il lui dit ah ouais, j'irai nettoyer le jardin tout à l'heure. Je sais pas. Mais l'important, c'est Star-Lord will return, en tout cas.
Oui, d'accord. Et du coup, ça, je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne sais même pas si c'est... parce que s'ils prennent la peine de titrer ça comme ça, pour moi, c'est un film. Enfin, c'est un film ou une série. Ce n'est pas juste qu'il va venir faire un caméo dans Secret Wars. Sinon, pour moi, c'est un peu limité quoi, comme annonce. Donc pour moi, c'est forcément un truc, soit série, soit film. Après, du coup, le fait qu'ils utilisent Star-Lord comme nom, est-ce que ça veut dire que c'est un autre Star-Lord? Enfin,
voilà, c'est ils un disent peu... bien « The Legendary Star-Lord ». Donc, oui. Ça pourrait être un titre, tu vois, genre ils insistent tellement sur... Mais bon, ça me paraît très bizarre. Tu dis pas ça si c'est pas Chris Pratt qui garde le rôle.
Quoi. Et les gens seraient déçus, et, c'est, fin, et ça serait pas, voilà, ça serait pas forcément un bon coup.
Tu sais que dans The Marvels, il y a une partie qui se passe sur Terre.
Oui.
Est-ce qu'on va déjà revoir... Ça serait dommage qu'on revoie déjà Chris Pratt dans The Marvels. Je crois que...
Ouais, j'y crois
respirer
pas,
un peu. Bon, en tout cas...
Tu peux faire Mario 2, là, qui cartonne.
Ouais, bon, oui, c'est, à mon avis, oui, il est déjà... Il est engagé sur 4 films, là. Mais non, j'espère que... j'espère qu'on va le revoir, qu'on va le revoir vraiment, tu vois, que l'arc de ce personnage va continuer. Et j'espère que ça ne sera pas tout de suite, tout de suite. J'espère qu'il y aura au moins quelques films qui vont se passer sans Star-Lord et qu'on le reverra à un moment. Et pas juste, effectivement, en caméo, enfin, en truc de groupe dans Secret Wars. Donc, mais... Secret Wars, on va avoir tout le monde, hein, je pense, mais bon, comme dans Endgame. Mais j'espère qu'on aura autre chose en plus. Peut-être, tu sais, j'aurais jamais pensé, mais peut-être qu'un Gardien de la Galaxie volume 4, ou genre tome 2 volume 1, avec différents personnages, ça pourrait même me plaire, quoi. J'aurais dit, bon, il y en a plein qui sont parti, Gamora, on ne va pas la revoir, Drax est terminé, peut-être même que Nebula, bon, ils sont sur Nowhere avec les enfants et on fait référence genre à la Fast and Furious, tu sais, de Family avec Michael qui est plus là, mais on en parle. D'ailleurs, j'écoutais un podcast et il y a quelqu'un qui disait « Ouais, mais Vin Diesel, il est que dans des projets où le truc principal, c'est la famille, tu vois, parce que c'est lui qui fait la voix de Groot, bien sûr. » Mais il est que dans des projets où c'est la famille. Et oui, et Groot qui parle à la fin. Oui. C'était... Il y avait une théorie, justement, dans ce même podcast, où il disait, c'est un podcast en anglais, où il disait, mais en fait, on comprend, là aussi, Gamora, elle finit par comprendre Groot à la fin, tu vois. Et on comprend Groot, non pas parce qu'on apprend sa langue, mais qu'on est suffisamment proche de lui qu'on finit par comprendre ce qu'il veut dire. Et du coup, quand à la fin, il dit « I love you guys », c'est que nous...
C'est nous qui reprenons, quoi.
Exactement. Le public
j'aime beaucoup,
qui fait
j'aime beaucoup
de
cette
la
théorie. Je l'aime tellement que je vais l'adopter.
Très bien, voilà. Donc, nous, on fait partie des gardiens de la galaxie. Et je crois que le message de tout ça, Johan, c'est qu'il faut aimer les gens et les films, malgré leurs défauts, quand on les aime vraiment. Et donc... Même si Adam Warlock est un dum-dum et que tu as été déçu par certains aspects, il faut que tu apprennes à accepter les Gardiens de la Galaxie 3 comme ils sont.
J'irai le revoir de toute façon.
Okay.
Soit maintenant, soit à sa sortie un jour
ouais.
En location. Mais si je change, si je commence à avoir un peu à me ramollir et à trouver ça bon, finalement, c'était super bien, et ben je te le dirai.
Très bien.
Et puis si je ne le dis pas, c'est que ça n'a pas changé.
Okay, je te poserai la question. Notez que cette philosophie ne s'applique pas au film du DCEU. Hein. Venez pas nous emmerder avec votre Snyder Cut, là. C'est pas du tout la même chose. J'ai commencé à regarder... Tiens, il faut que je le mentionne. J'ai commencé à regarder The Bear. Est-ce que tu connais cette série ?
De nom, juste okay. De nom.
Bon, alors je vais pas le mentionner, mais il y a... ça a rien à voir avec rien de super-héros. C'est juste qu'à un moment, il y a une scène dans le premier épisode qui m'a fait rire. Je vous laisserai la découvrir. Merci.
Est-ce qu'il y a un ours ?
Quoi ?
Est-ce qu'il y a un ours dans la série ?
Oui et non.
D'accord.
C'est un truc sur un restaurateur à Chicago. C'est hyper bizarre comme série. Je suis à la moitié. Je sais toujours pas si je l'aime ou pas. C'est hyper bizarre et c'est particulier. Mais tu pourras regarder. Je crois qu'on a fait le tour, hein. On a passé très longtemps sur ces Gardiens de la Galaxie 3, je pourrais en parler encore pendant 2 heures. J'ai très très hâte de le revoir et dans mon petit village, malheureusement, il passe déjà plus, donc je pourrais peut-être pas le revoir avant longtemps et ça me désole, mais bon, malheureusement, il va falloir arriver au terme de cet épisode. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Johan, ou est-ce qu'on clôt ce Super Laser Punch?
En conclusion, j'ajouterais jouer au jeu Gardien de la Galaxie, que pour moi est toujours le meilleur Gardien de la Galaxie audiovisuel.
J'en suis aux 2/3, je crois, et j'avais arrêté de jouer, mais ça m'a donné envie de rejouer. Et Cosmo est super bien dans. Enfin, tous les personnages sont super bien, en fait.
Ouais, il y avait même. Ouais. Je veux pas trop en dire, mais du coup, voilà. J'ai commencé le jeu vraiment très dubitatif, pas trop aimé les personnages, pas trop aimé même le jeu, c'était pas trop ma cam. Et je me suis assez quand même attaché assez fortement à ces personnages-là, et je trouve la deuxième moitié absolument incroyable.
C'est pour ça que en fait, il y a Adam Warlock dans le jeu et tu l'as préféré dans le jeu au film, et c'est pour ça que tu n'as pas
compris. Oh oui.
Super, merci beaucoup Johan d'avoir été là avec moi. On se retrouve dans quelques semaines pour commencer à parler de Secret Invasion qui arrive en juin, c'est ça ? On se posait déjà la question la semaine dernière, enfin la dernière fois, et j'ai déjà oublié. C'est dans quelques semaines en tout
cas.
C'est
plus facile quand il y avait un truc toutes les semaines.
Ben ouais, franchement. Mais d'ici là, où peut-on te retrouver sur Internet, dis-moi ?
Là, on va bientôt plus me retrouver du tout, puisque je vais disparaître pour m'enfermer dans Hyrule assez vite. J'ai déjà commencé en jouant au précédent, puis il y a le suivant qui va sortir. Mais plus blague à part, sur Twitter, @Johan_T_.
Magnifique, le lien sera dans les notes de l'émission et le lien vers le Discord également. Vous pouvez nous retrouver sur le Discord où on parle de plein de choses, y compris de cet épisode spécifique. Si vous avez des choses à dire, des choses à ajouter, des choses qu'on a oubliées, des choses sur lesquelles on s'est trompé, c'est rare, hein, c'est rare qu'on se trompe. Généralement, quand on dit quelque chose, on a raison, mais qui sait, vous pouvez aller sur le Discord et aller dans le channel Dernier Super Laser Punch et on peut parler de tout ça ensemble avec tous les spoilers de la Terre. Et vous pouvez me retrouver aussi sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Note Patrick et dans les podcasts. Rendez-vous Tech et Rendez-vous Jeu, où on parle toutes les semaines de l'actu tech et gaming. Ils sont bien nommés, donc c'est facile à retenir. Je vous remercie et on se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
À bientôt.
Ouais, mais sur les films avec la grève des scénaristes, comme je disais, ça fait tellement de bien d'avoir un film du MCU qui soit bien, je le disais au début, mais là, qu'est-ce qui va se passer avec les grèves des scénaristes? Mais qu'ils retardent tout. Parce que le problème, c'est qu'il y en a qui sont déjà écrits, je pense, mais le problème, c'est que les scénaristes, ils sont sur le film pendant qu'il est en train d'être tourné pour s'assurer que tout se passe bien avec les petits changements, les machins comme ça. Donc.
Surtout dans des énormes machines comme ça où les projets vont vite. Je pense que c'est indispensable d'avoir des auteurs sur le set, capables de s'adapter, d'adapter les scripts, etc. Parce que du coup, là, il y a des projets un petit peu... Voilà, je crois que la news récente, c'est Le Seigneur des Anneaux, la saison 2, qui est en train d'être tournée sans auteur, du coup. Donc, aucun showrunner, aucun auteur sur le tournage. Et ils y sont.
Bah, Blade, ils ont dit qu'ils arrêtaient le tournage, qui devait commencer là maintenant, donc ils retardent. Il y a des films qui sont déjà complètement écrits, donc pourquoi pas. Il y a des trucs genre Loki saison 2, Secret Invasion, c'est fait, c'est tourné, ça peut être diffusé. Mais moi, j'espère qu'ils vont attendre et attendre avant de... Tu vois, s'ils doivent décaler plein de trucs, ça peut même donner une excuse à Kevin Feige maintenant que toutes les influences négatives de Disney sont parties et que Bob Iger est revenu, qu'ils ont viré le mec de Marvel Comics, tout ça. Tu vois, il peut prendre le temps de réécrire tout ça.
Mais le mieux, c'est que Disney accepte les conditions de la guilde des writers et comme ça, les auteurs peuvent vite revenir travailler, tu vois.
Ouais, oui, bah oui, bien sûr. Enfin, c'est pas que Disney, hein, tu sais, c'est tout le monde, toute l'industrie. Et ça a beaucoup à voir avec l'IA. Hein. Il y a aussi l'histoire des mini-rooms, mais il y a beaucoup d'histoires d'IA. Est-ce que notre travail peut être utilisé pour entraîner les IA? Est-ce que vous allez nous filer des first drafts écrits par des IA toutes pourries et puis nous, on réécrit seulement, donc on n'a pas... Il y a tous ces problèmes. Bon, on verra comment ça se passera.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week, we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes... absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.